Qui sera régent?
Louis X Hutin expira dans la nuit du 4 au 5 juin 1316, un peu après minuit. Pour la première fois depuis 329 ans, un roi de France mourait sans laisser un héritier mâle auquel la couronne put être dévolue. Monseigneur de Valois, d'ordinaire si empressé à régler les pompes royales, qu'elles fussent nuptiales ou funèbres, se désintéressa complètement des derniers honneurs à rendre à son neveu. Il appela le grand chambellan Mathieu de Tri et lui donna pour toute instruction « Faites ainsi que la dernière fois ». Lui-même s'occupa de convoquer dès les premières heures de la matinée un conseil, non pas à Vincennes, où une telle assemblée eût été forcément présidée par la reine, mais à Paris, au palais de la Cité. « Laissons notre chère nièce à sa douleur, déclara-t-il, et n'ajoutons rien qui puisse nuire à son précieux fardeau. » Ce conseil, par sa composition, ressemblait plus à une réunion de famille qu'à une chambre de gouvernement. Y siégeaient Charles de la Marche, frère du défunt, Charles de Valois et Louis d'Évreux, frère de Philippe le Bel, Louis de Clermont, petit-fils de Saint-Louis, Mao d'Artois et Robert d'Artois, respectivement petite-nièce et arrière-petit-neveu de Saint-Louis, et Philippe de Valois, fils de Charles, auquel avait été adjoint le chancelier, l'archevêque de Sens et le comte de Bouville, afin que fussent représentés la justice, l'Église et les grands serviteurs de l'hôtel royal. Valois n'avait pu éviter de convier la comtesse Mao, qui se trouvait avec lui-même le seul père du royaume présent à Paris. Ainsi, la meurtrière de celui dont il s'agissait de régler dans l'immédiat la succession était là, réintroduite dans ses prérogatives et se délectant secrètement de sa victoire. Si Valois attendait une opposition de la part de Mao, il ne la redoutait pas, et il se pensait entièrement appuyé par le reste de la parentèle. De plus, le chancelier Mornay était sa créature. L'archevêque Marigny avait parti lié avec lui. Quant à Bouville, on connaissait son manque d'initiative et sa docilité. En vérité, Valois se félicitait que Philippe de Poitiers et le connétable gaucher de Châtillon fussent tous deux absents. Avec eux, les choses eût été moins faciles. Mais pour l'heure, ils étaient à Lyon où ils s'employaient à rameuter les cardinaux. De la sorte, Monseigneur de Valois se sentait les coudées franches, trop franches même. Il s'assit au haut bout de la table dans le fauteuil royal. Encore qu'il imposât à son visage l'expression du chagrin, il ne parvenait pas à masquer la satisfaction qu'il éprouvait à occuper ce siège. « Nous sommes assemblés dans le deuil qui nous frappe, commença-t-il, pour décider de choses urgentes qui sont le choix des deux curateurs au ventre qui doivent veiller en notre nom sur la grossesse de la reine Clémence et aussi la désignation qu'il vous faut faire d'un régent du royaume, car il ne peut y avoir rupture dans l'exercice de justice et de gouvernement. Je vous demande votre conseil. » Il employait des expressions de souverain et se posait manifestement en détenteur des attributions royales. Son attitude choqua son demi-frère, le comte d'Évreux, dont la rigueur d'âme et la droiture de pensée, les soucis moraux, le respect des institutions s'accommodaient mal de tels procédés. C'était par l'effet d'une nature inquiète et scrupuleuse que Louis d'Évreux n'avait jamais pris de participation active au pouvoir. Mais il observait, jugeait, et il désapprouvait presque tous les actes accomplis depuis un an sous l'inspiration de Valois. Comme ce dernier, se répondant à lui-même, proposait que la nomination des curateurs fût remise aux soins du régent, d'Évreux, avec la brutalité soudaine qu'ont parfois les gens réfléchis, l'interrompit. « Souffrez, mon frère, que nous parlions aussi, et ne liez donc pas, s'il se peut, toute question ensemble. L'aménagement de la régence est une chose dont il existe précédent aux annales du royaume et qui veut d'être débattue devant le conseil des pairs. La désignation des curateurs en est une autre, qui relève des proches membres de la famille et dont nous pouvons trancher ici, en l'assistance du chancelier. Avez-vous des noms à avancer ? » Surpris par cette intervention, et plus encore par le ton déterminé sur lequel elle était faite, Charles de Valois répondit pour gagner du temps « Et vous, mon frère, qui proposez-vous ? » Le comte d'Évreux se passa les doigts sur les paupières.